Chapitre 7. Il ne faut pas. Silencieusement, Ernest-Pierre Combes reprit les rames et Thérèse le gouvernail. Le bateau s'éloigna doucement du champ flottant des nénuphars. La rive glissa derrière eux avec ses reflets d'arbres et de fleurs dans l'eau ensoleillée. « La langue anglaise est singulière, » fit Thérèse au bout d'un moment. « Remarque profonde, mais que je crois avoir déjà entendue. Veuillez spécifier, » prononça-t-il de son ton de taquinerie qui la froissait un peu tout en l'amusant. « En anglais, » expliqua-t-elle, « tous les objets sont du genre neutre, ce qui est très logique et bien plus facile qu'en français. Et vous faites une seule exception, les bateaux et tout ce qui va sur l'eau sont du genre féminin. » En effet, parce que les bateaux sont les amours de tout cœur anglais. Oui, c'est très joli. Mais par contre, cette charmante Tamise, vous l'affublez d'un nom bien mal approprié quand vous l'appelez, affectueusement je veux bien, le vieux père Tamise. Ah, s'il ne faut que cela pour vous faire plaisir, je dirais, chère et aimable Miss Tamise. Mais, continua-t-il à demi-voix, j'aimerais bien mieux dire... « Chère et aimable Miss Thérèse, vous permettriez ?» Thérèse se sentit devenir très rouge. « Vous permettez ?» insista-t-il plus nettement. « Je n'en vois pas l'opportunité, » fit-elle, embarrassée comme toujours entre sa gaucherie, sa sincérité et sa jeune envie de s'amuser. « Je ne suis pas si aimable, » continua-t-elle, pour n'avoir pas l'air de couper court trop sottement. « Et chère ?» « Non, c'est un mot qui ne signifie rien. On l'emploie à tout bout de champ. »« Ah, moi, si je disais « chère Thérèse », je vous assure bien que cela signifierait quelque chose. » La jeune fille, troublée un instant, se ressaisit. « Avec vous, » fit-elle, « quoi qu'on dise, on ne sait jamais ce qui va s'en suivre. Je parlais du vieux père Tamise. Je me demande comment vous en êtes venue à cette fadaise. »« Fadaise ? Est-ce un mot bien sévère en français ?» interrogea Pierre Combes d'un air d'enfant sage qu'on gronde à tort. « Pas très sévère, non, » fit-elle sans pouvoir s'empêcher de rire. « Mais vous alliez me gâter cette jolie partie. » De nouveau, ils se turent assez longtemps, jusqu'à ce que leur bateau, à un tournant, frôla les piles peintes en éclatant minium d'un petit débarcadère. Une enseigne en banderole, toute enguirlandée de roses banques, arrondissait son arcade engageante à l'entrée d'une allée de gravier bleu. « C'est ici que nous prenons notre thé, » dit Pierre Combes en amarrant le bateau. « Vous verrez ça, de vrais scones écossais et de la vraie crème épaisse à la façon du Devon. » Ils montèrent jusqu'au cottage, ils s'assirent sous une tonnelle de chèvrefeuilles. Une bonne vieille dame apporta l'assiette de scones grillés et beurrés, tandis qu'une jeune serveuse suivait avec le plateau des tasses et de la théière. « Est-ce moi qui sers le thé ?» demanda Thérèse, comme tout était placé devant elle. « Naturellement, qui d'autre ?»« Par bonheur, » songea-t-elle, « j'ai appris chez les Naïmol la manière anglaise de servir le thé correctement. Car ce que M. Combes observe... « N'ôterez-vous pas votre chapeau ? » demanda-t-il au moment où elle soulevait la théière. « Ôtez mon chapeau ? Pourquoi ?»« J'ai bien ôté le mien, » fit-il. « Vous en avez des raisons, mais j'ôterai volontiers mon chapeau. Je n'y pensais pas. » Thérèse n'était ni assez coquette ni assez expérimentée pour comprendre tout de suite que son compagnon désirait voir ses cheveux. Il éclaira du reste sans tarder. « Je ne vous ai jamais vu que chapeauter, » dit-il. « Songez un peu à tout ce que je perdais, » poursuivit-il avec un regard éloquent, tandis qu'elle suspendait sa capeline au dossier du banc et que, par un geste immortel qu'Ève dut connaître déjà, elle passait ses doigts au bord de son front et sur sa nuque pour amener à leur place des mèches égarées. « Où avez-vous pris ce genre de remarques personnelles ? » demanda-t-elle un peu brusquement. « Les Anglais, en général, ne font pas de compliments. » « Combien connaissez-vous d'anglais ?» fit Pierre Combes avec cette facilité déconcertante qu'il avait de la mettre tout doucement dans son tort. « Oh, des quantités dans les romans !»« Non, pour être véridique, je n'en connais qu'un et encore. C'est M. Black à ma pension. Je vous assure bien qu'il ne m'a jamais fait de compliments. » Parbleu, le sot, il s'admire trop lui-même. J'ai pris sa mesure rien qu'à voir descendre de l'omnibus sa précieuse personne. On aurait dit qu'il se saluait en arrivant sur le trottoir. » Thérèse se mit à rire. « Il y a bien un peu de ça, mais vous me faites oublier de servir le thé. » Avec les scones et la crème du Devon, des fraises fraîches et mûres parfumaient la table. « Du sucre, combien de morceaux? De la crème ou du lait ?» demanda-t-elle, suivant le code qu'on lui avait enseigné dans la maison des miroirs. Pierre Coum prit la tasse, mais aussitôt, rapidement, avant que Thérèse pût retirer sa main, son bras nu, il s'en était emparé et, se penchant sur le poignet, y mettait un baiser à peine appuyé, puis se relevait en murmurant des mots comme « impossible, irrésistible », d'un air pas du tout confus. « Non, il ne faut pas !» s'écria la jeune fille, reculant aussi loin qu'elle put. « Il ne faut pas ? Vous êtes fâchée ! Pourquoi alors avez-vous un si joli bras, une si jolie main ? » murmura-t-il de ce timbre voilé où grondait quelque chose qui faisait un peu peur. « Depuis quand est-il défendu de baiser la main d'une dame ? Vous m'avez baisé le poignet, c'est différent. Vous êtes bien savante. » « Non, je ne suis pas savante, mais je m'instruis tous les jours. » Son obscur instinct de féminité lui conseillait de fuir le troublant tête-à-tête. Par où s'en aller ? Il n'y avait que le bateau. Entrer dans le cottage, prétexter un mal de tête, en même temps, elle se traitait de petite nigaude. Allait-elle faire une scène pour si peu de choses ? « Allons, n'en parlons plus, » fit le jeune homme qui s'efforçait de prendre une mine pénitente. C'est un instant d'oubli, un mouvement réflexe, comme on dit, sans doute parce que la réflexion n'y est pour rien. Faisons comme si nous étions deux bons vieux et buvant notre thé, mangeant ces fraises et cette crème. Bien loin de glisser comme chat sur braise, il appuya au contraire, il commenta. J'aurais dû deviner qu'une fille d'Helvétie serait aussi froide, aussi inabordable que la Jungfrau. Je le sais à présent. Est-ce fini? Suis-je pardonné? Bons amis comme avant? Oui, dit-elle moins irritée. Bons amis, c'était notre arrangement. Bons camarades. Vous n'avez pas le costume de l'emploi. Les bons camarades s'habillent en grosse serge et chapeau canotier. Bien, je le saurai pour la prochaine fois. Phil y réfléchit. Il y aura donc une prochaine fois. Merci d'avance. Mordez dans cette pâtisserie écossaise avant qu'elle soit froide. Il se mit à parler de la Suisse qu'il connaissait mieux que Thérèse. Il avait passé un hiver dans les Grisons et chaque année de son enfance et de sa première jeunesse, au mois d'août, sa famille l'emmenait, ici ou là, dans les Alpes. À vrai dire, j'étais gavé de la vie de chalet. Ma mère n'était pas assez riche pour nous faire vivre à l'hôtel. « Avez-vous une profession ?» se hasarda-t-elle à demander. Il parut hésiter une seconde. « Certainement, j'ai fait les examens pour le service civil, j'ai été fonctionnaire aux Indes pendant plusieurs années. J'étais en bon chemin de passer commissaire à 45 ans peut-être. Vous savez ce que c'est qu'un commissaire civil dans nos colonies ? Aux Indes, c'est une manière de roi dans sa province. Il réunit en sa personne les pouvoirs qui sont répartis sur trois fonctionnaires des colonies françaises. Il est juge, il est percepteur d'impôts, il surveille les ponts et les routes. Quand il voyage, et il voyage tout le temps, c'est avec un train princier. « Des éléphants ?» demanda Thérèse la naïve. « Cela dépend de la province. Est-ce que le commissaire emmène sa femme dans ses voyages ?» Quelquefois, il arrive aussi qu'elle reste à la maison. Alors, elle se distrait comme elle peut. Il s'interrompit, son air devint morose. « On voit que vous regrettez les Indes, » fit Thérèse sympathique. « Y retournerez-vous ? » « Ah non, jamais !» s'exclama-t-il presque violemment. « J'ai eu des mécomptes, des déboires injustes. Ah non, qu'on ne me parle pas des colonies anglaises, des hommes et des femmes qui sont là à les grignoter comme des vers dans un fromage. » Le terme anglais qu'il employa, « maggots », lequel signifie toutes sortes de larves dégoûtantes, parut à Thérèse insensé et assez révoltant. « Comment pouvez-vous parler ainsi de vos compatriotes ? » fit-elle avec quelque indignation. « On nous enseigne que les colonies anglaises sont les mieux administrées du monde. » « J'ai tort, en effet, » accéda-t-il en se calmant tout à coup. « mettez cette sortie sur le compte de ce que vous voudrez, la bile, la fièvre. J'ai été malade récemment. Non, je ne retournerai pas aux Indes, un point c'est tout. Mais, poursuivit-il au bout d'un moment, je n'aime pas beaucoup mieux l'Angleterre. Vous voyez mon dilemme. Pas les Indes, pas l'Angleterre, alors quoi ? Le monde est grand, dit Thérèse avec le sourire de la jeune personne qui, ne sachant pas grand-chose, trouve facile de résoudre les problèmes d'autrui. Il y eut de nouveau une minute dangereuse. Le monde est petit, au contraire, puisque je vous ai rencontré, dit Pierre Coum. Et tout à coup, ce fut presque une tendresse qui vibra dans sa voix et qui frôla dans Thérèse des cordes correspondantes. Quand il était moqueur, taquin, paradoxal au chagrin ou bizarrement jaloux de M. Black, elle se tenait bien, elle restait sur la défensive. Il l'amusait simplement ou bien il la choquait. Mais cette intonation, qui semblait monter comme l'appel d'un cœur éperdu à un autre cœur solitaire, c'était le chant mystérieux qui égare un voyageur. Thérèse se connaissait un peu. Elle savait qu'on la ferait marcher très loin avec l'appât d'une affection qui aurait besoin d'elle. Quand on la suppliait, sa volonté ne pouvait point se durcir, elle s'effondrait. La jeune fille avait déjà, derrière elle, en amitié, deux ou trois expériences où, presque contre son gré, un sacrifice avait été accompli. Et elle devinait bien que Pierre Coum demanderait plus qu'un peu d'amitié.